fait rarissime pour un astrophysicien, chaque jour, Avi Loeb reçoit du courrier de ses fans. Ce matin de janvier, alors qu'il vient de garer sa voiture de luxe sur le parking du centre d'astrophysique d'Harvard, recouvert d'un épais manteau neigeux, il est accueilli par plusieurs missives. Un billet manuscrit en lettres filiformes, des demandes de dédicaces et un épais paquet maintenu par plusieurs couches de scotch. Espérons qu'il n'explose pas, rigole-t-il avant d'amorcer un virage émotionnel à 180 degrés. En même temps, je m'en fous. J'ai dit ce que j'avais à dire. Alors qu'il griffonne des papiers sur son bureau, son assistant, Richard Claute, chercheur post-doctorant, ouvre le paquet. C'est un roman qui semble auto-édité. Une lettre manuscrite a été glissée entre deux pages. « Voulez-vous la lire ?» demande Claute. « Non, ça n'a pas d'importance. » réplique son patron, sans lever les yeux. Loeb a appris à distinguer au premier coup d'œil ceux qui le sollicitent par amour de la science, de ceux qui le font par intérêt. Répondre lui prend du temps, mais il sait qu'il devrait le faire, car les gens apprécient ce geste. D'autant que Loeb et ses équipes, en cet hiver 2024, jouent gros. Il s'apprête à finaliser un article de recherche sur une expédition menée l'an dernier dans l'océan Pacifique, durant laquelle ils ont raclé les fonds marins en quête de sphères du diamètre d'un grain de sable. De petites poussières prétendument produites par la désagrégation dans l'atmosphère d'IM1, un objet aux propriétés étranges aperçu en 2014 dans le ciel de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les enjeux sont on ne peut plus élevés pour l'astrophysicien. Si ses résultats sont concluants, son article devrait attester que son expédition a été un succès. Une réussite qui déclenchera le financement privé d'une nouvelle expédition qui, espère Loeb, lui permettra de découvrir des fragments plus gros d'IM1. Et surtout, si son hypothèse se confirme, il pourrait valider la plus grande découverte scientifique du siècle. Notre premier contact avec une technologie extraterrestre.
Professeur d'astrophysique à la prestigieuse université d'Harvard, au sein de laquelle il dirige le département d'astronomie, Avi Loeb.
There are more planets like the Earth in the observable volume of the universe than there are grains of sand on all beaches on Earth.
Science fiction enthusiasts have long contemplated and perhaps hoped for signs of intelligent life elsewhere in the universe.
En 2014, un étrange objet explosait dans l'atmosphère terrestre. Trois ans plus tard, un corps interstellaire était, pour la première fois, observé traversant le système solaire. Avi Loeb, professeur à Harvard et astrophysicien de renom, affirme que ces anomalies pourraient bien être des vaisseaux extraterrestres. Depuis, il est devenu le héros des ufologues et le paria de la communauté scientifique. Le professeur et les extraterrestres est un récit d'Anthony Mansuy, paru dans Society et lu par Christelle Valois.
Au long, la piste audio des grands récits de Society.
Bonjour, bienvenue dans la partie bonus Making of du magazine Society. Aujourd'hui, on va parler de l'article intitulé « Le professeur et les extraterrestres » qui vous fait découvrir l'astrophysicien Avi Loeb, donc un mec très sérieux, qui a évoqué la possible existence de vaisseaux extraterrestres. Pour en discuter, j'ai face à moi celui qui s'est rendu aux États-Unis directement pour rencontrer le professeur et sans doute répondre à quelques-unes de ses propres interrogations. Bonjour Anthony Mansuy.
Bonjour Noémie.
Est-ce que tu vas bien ?
Ça va pas mal, ouais, ça va pas mal.
Alors la première question est toujours très simple. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cet article en particulier?
Bah en fait, c'est ma rédactrice en chef qui m'a proposé d'y aller.
Emmanuel Andréani.
Mais en fait, je pense qu'elle a bien compris un truc qui m'intéresse beaucoup et qu'on voit aussi dans l'article. C'est que moi, il y a un truc qui me fascine, c'est la ligne entre science et croyance. Et ça fait un peu pompeux de le dire comme ça, mais en fait, c'est vraiment un truc qui est de plus en plus prégnant depuis des années, un peu partout dans le monde, en France, avec les théories du complot, les fausses informations, etc. Et le retour des mythes. Et ce qui était particulièrement intéressant dans ce sujet, c'est que en fait, on pense pas qu'un professeur à Harvard, ancien directeur du département d'astronomie de Harvard, donc l'université la plus prestigieuse au monde, a priori, puisse franchir cette ligne-là. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait carrément. Enfin, j'ai super envie de le faire. Et l'idée, c'était un peu de sonder ça dans son esprit à lui, quoi, et dans sa carrière.
Est-ce que c'est le seul astrophysicien, enfin en tout cas quelqu'un de sa stature et de ce métier-là, qui a franchi cette limite? Est-ce que tu as pu voir ça dans les recherches que tu as pu faire, par exemple?
Ouais, c'est le seul, parce qu'en fait, il y a en astrophysique et en astronomie, en fait, il y a un mot qui est interdit, c'est le mot alien. Parce qu'en fait, ils passent leur temps à faire des théories sur des trucs qu'on observe plutôt dans le système solaire et qu'on suppose exister dans l'univers. Très rapidement, en fait, on peut en arriver à se dire « Ah, ça, c'est extraterrestre, ça, c'est alien. » Et du coup, il y a une sorte de barrière qui est très, très haute dans la communauté des astrophysiciens et des astronomes pour arriver à théoriser le fait que telle ou telle chose est de nature extraterrestre. Et surtout, enfin, extraterrestre, Mars est extraterrestre, la Lune est extraterrestre, mais que ça va être des technologies d'origine extraterrestre ou des signes de vie extraterrestres. Et le problème avec Avilob, c'est que lui, en fait, il va très rapidement vers ces réponses-là. Par exemple, il y a un organisme de recherche qui s'appelle le SETI, où en gros, c'est des astronomes et des astrophysiciens qui travaillent à la recherche de signaux de vie extraterrestre. Mais en fait, ils n'ont jamais tiré l'alarme, si vous voulez. Ils n'ont jamais dit « Ah, ça, c'est extraterrestre », mais ils recherchent. Et donc, si eux ne le font pas, alors qu'ils ont le nœud dedans en permanence, c'est bien qu'il y a une raison, et c'est bien qu'il y a des protocoles mis en place pour éviter qu'on en arrive à ce genre de dérive-là, quoi.
Avilob, tu l'as rencontré. Est-ce que ça a été compliqué de le rencontrer?
Pas du tout. Vraiment, j'ai jamais eu quelqu'un d'aussi connu qui m'a répondu aussi vite. Je crois qu'il m'a répondu une demi-heure après à mon mail. Ma théorie là-dessus, c'est qu'en fait, il fait de la science plus forcément... Il fait de la science pour ses pairs, parce qu'il écrit encore des articles dans les revues scientifiques. Mais en fait, ses expéditions et ses projets sont principalement maintenant financés par des aficionados. Et c'est assez simple quand on fait de la science. On l'a fait dans des universités avec des projets, avec des budgets de recherche, en récupérant soit des financements via des mécènes, des donateurs, qui vont généralement être des gens qui sont un peu dans le giron institutionnel, surtout aux États-Unis. Donc ça va être des fondations, ça va être des choses comme ça. Et ça, Avilob, maintenant, il a tellement franchi la ligne rouge qu'il peut plus les attirer. Et du coup, il va plutôt aller trouver les gens qui financent ses expériences. Là, par exemple, c'est un mania des crypto-monnaies, un milliardaire, le cofondateur de la deuxième plus grosse crypto qui s'appelle Ethereum, qui a mis 1,5 million pour sa dernière expédition, qui est foireuse à plein d'égards par ailleurs. Du coup, le fait d'accepter toutes les interviews fait que, en fait, ça l'expose davantage et quelqu'un d'autre peut découvrir son travail et se dire « Ah putain, je vais lui donner de l'argent, ça peut être super ». Et c'est comme ça d'ailleurs que le mania des cryptos qui a financé son expédition l'a découvert, quoi, sur un podcast.
Avilob, tu l'as rencontré quand et où et qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
On s'est vu fin janvier à Cambridge, dans le Massachusetts. C'est une banlieue de Boston, un peu une sorte de Neuilly-sur-Seine de Boston en gros, qui est un peu une banlieue cossue, où il y a Harvard, l'université dans laquelle il enseigne. Et voilà, j'ai passé peut-être 5-6 jours là-bas en tout. Et avec lui, il y a eu 3-4 sessions d'entretien chez lui. On s'est aussi vu dans son bureau à Harvard plusieurs fois. On a bu un verre aussi ensemble. Et y a ce petit moment dans la voiture où on allait entre chez lui et Harvard, enfin le centre d'astrophysique où il enseigne, où là, ouais, on a discuté un peu de philosophie notamment. En gros, sa philosophie, c'est qu'il a découvert les philosophes existentialistes quand il avait une quinzaine ou une vingtaine d'années, je ne sais plus exactement. Et donc, il découvre Sartre et Camus et il en retire l'idée qu'il n'a jamais démenti depuis dans son esprit que la vie est absurde. La vie n'a pas de sens intrinsèque et c'est aux humains de créer le sens de leur existence. Pour lui, en fait, cette découverte philosophique a cassé le monde. Elle a cassé notre rapport au monde. Et du coup, il faut recréer une sorte de nouveau dieu. Et lui, il le cherche, ce dieu-là, dans la science, mais en fait, surtout dans les extraterrestres. C'est-à-dire que, pour lui, la découverte d'une civilisation extraterrestre bien plus avancée que la nôtre, et le truc qui ressemblera le plus à ce qu'on avait avant, qui s'appelait Dieu, enfin qu'on avait avant, je parle philosophiquement, dans la sphère républicaine et civique, où Dieu n'est plus forcément une question qui se pose au quotidien, même si en fait c'est le cas, mais c'est plus aussi prégnant qu'avant, ça n'a jamais été aussi peu prégnant en fait, je pense. Et lui, en fait, recréer ce Dieu-là via les extraterrestres, c'est pour lui quelque chose qui permettra de remettre du sens dans l'existence commune, qui pourra redonner du sens d'émerveillement aussi aux gens, c'est-à-dire on découvrira de nouvelles technologies, on découvrira comment une autre civilisation a pu se développer, on aura des réponses à des questions fondamentales sur la physique, sur même aussi la philosophie, sur l'histoire de l'univers, comme il y a eu quoi avant le Big Bang, c'est la grande question qu'il a envie de poser à ces extraterrestres-là. Et donc voilà, donc c'est assez marrant, parce que moi j'ai jamais vu quelqu'un réfléchir au monde comme ça. Et je suis pas forcément d'accord du point de vue philosophique avec lui, mais bon, enfin, il a peut-être raison, moi j'en sais rien en fait, et j'ai très certainement tort aussi dans ma manière de voir les choses. Mais voilà, donc c'était assez intéressant, on a beaucoup parlé de ça dans la voiture.
Et il conduit comment alors à Villeub ?
Très bien, très concentré quand il conduit, d'autant plus qu'il faisait très froid à Boston à ce moment-là, il y avait un peu de verglas sur la route et je ne me suis pas senti, en danger.
C'est quelqu'un du coup qui a l'habitude de parler aux médias. Dans ton article, on lit, c'est lui qui le dit, il dit qu'il a que ça arrive régulièrement qu'on le rémunère pour faire une interview, en tout cas les médias américains, qu'il a même été payé pour assister à un dîner de quelqu'un qui voulait dîner avec lui. Est-ce que toi, tu l'as payé ?
Non. On n'a pas l'argent, de toute façon.
Il ne l'a même pas demandé.
Tu le sais, en plus.
Je le sais, mais je voulais te l'entendre dire.
Non, on n'a pas payé. Je pense qu'en fait, lui, vraiment, c'est un peu ce que je disais avant, c'est qu'il se dit, peut-être, je ne sais pas, une chance sur 100, une chance sur 1000 que quelqu'un qui lit l'article va se dire « Ouais, super, je vais y aller, je vais lui donner un peu d'argent. » Donc, il y a de ça. Après, c'est pas forcément une réponse à ta question, mais c'est assez marrant d'imaginer un scientifique qui prend de l'argent et qui se fait payer aussi en bouteille de vin pour aller dîner avec un fan, quoi. Enfin, ça montre aussi une sorte de manière de pratiquer la science qui est un peu bizarre, en fait. Enfin, personne fait ça normalement. Moi, ce qui me frappe toujours, dès que je parle à des scientifiques, c'est que je vois une humilité assez folle, quoi. Et justement, enfin, il y a un astrophysicien dans l'article qui dit, et j'ai trouvé cette phrase super, il dit bien sûr, on a tous des biais, on a tous des opinions, on a tous envie de. Enfin, lui me disait, moi j'ai super envie de découvrir des extraterrestres, c'est pour ça que je fais ce métier. Mais la science, c'est tous les mécanismes et les processus qui font que on se laisse pas dépasser par ces biais-là et on se trompe pas nous-mêmes. Et en fait, c'est assez marrant de voir à 60 ans que Villeub, il est décidé de foutre tout ça à la poubelle, quoi.
Mais justement, qu'est-ce qu'on fait quand on est journaliste et qu'on traite ce genre de sujet ? Qu'est-ce qu'on fait des choses que l'on croit et des choses que l'on ne croit pas ? Est-ce qu'on les met de côté pour être le plus objectif possible, en fait ?
J'ai pas mal bossé sur le sujet des théories du complot et j'ai pas mal fait des portraits, des enquêtes de gens qui désinforment. Et en fait, ce que fait Lob, c'est une forme de désinformation. Il est pas journaliste, il est pas youtubeur, mais dans sa manière de présenter ses recherches au grand public, il y a une forme de désinformation. Sauf que c'est un peu différent, parce que ça passe par des articles scientifiques. C'est quelqu'un quand même de très capé et de très crédible sur plein de sujets. Mais sur celui qui traite et qui est sur lequel il est le plus visible aujourd'hui, il manque de crédibilité et surtout il va trop vite vers des conclusions absurdes en fait. Le problème c'est qu'il désinforme en disant par exemple qu'il a trouvé un signe de vie, enfin une technologie extraterrestre au fond de l'océan Pacifique. C'était pas prouvé quand il l'a dit. Et il l'a dit sur Medium, ça a fait énormément de clics partout sur YouTube, etc. Donc c'est une forme de désinformation, même s'il est que la source et qu'ensuite derrière les gens le reprennent. J'ai à la fois un grand respect pour son travail académique, de toute sa carrière, mais en même temps, moi, mon biais à moi là-dedans, c'est quand j'arrive et que je le rencontre, c'est qu'en fait, j'ai une sorte de mépris. Malgré le respect qu'il y a de l'autre côté, enfin, c'est un peu ambigu, en fait, et c'est un peu contradictoire. Et du coup, moi, quand je travaille à ce moment-là sur cet article-là, l'idée, c'est pas de me laisser dépasser par mon mépris, justement. Et par cette manière qu'il a, enfin, de présenter les choses, en plus de se victimiser en permanence parce qu'il dit que les autres sont jaloux de lui. En fait, en gros, il prend les critiques qui sont naturelles dans le débat scientifique, il les prend personnellement et il transforme ça en sorte de combat pathologique de gens qui sont jaloux, qui sont qui par exemple lui dit que ses détracteurs sont comme les détracteurs de Galilée. Et donc, du coup, bah en fait, lui, il se met en miroir comme Galilée pour pas montrer mon mépris. Bah en fait, ce que je fais aussi quand je vais voir des complotistes ou des gens d'extrême droite, c'est qu'en fait, j'essaie de prendre le parti de la bonne foi, c'est-à-dire je n'essaie jamais de savoir s'ils croient en ce qu'ils disent ou pas. On n'arrivera jamais à moins de se projeter dans leur tête, c'est impossible. Donc ça, je le fais jamais. Enfin, j'ai arrêté de le faire à ce moment-là, et je me dis, ils sont de bonne foi. Et je leur laisse présenter leur vision du monde, les raisons pour lesquelles ils disent qu'ils font ce qu'ils font. Et après, bah, l'idée, c'est d'essayer de parler à des gens autour qui connaissent bien le sujet, qui ont enquêté, ou alors qui ont des informations, se servir du bon sens à un moment aussi, pour voir vraiment si ce qu'il dit, c'est vrai, et les motivations derrière cette suractivité, cette hyperactivité des informatives sur l'astronomie, quoi.
C'est quoi, toi, ta maîtrise de l'astrophysique ?
Bah, zéro, complètement rien.
Et comment on fait alors pour ne pas écrire n'importe quoi quand on traite un sujet comme ça ?
Déjà, on lit beaucoup, c'est-à-dire on lit beaucoup, mais on lit jamais assez. Surtout, plus le sujet est compliqué, plus c'est difficile. Donc moi, je me suis retrouvé face à lui. Il me faisait des tunnels de un quart d'heure, 10 minutes sur un tel ou tel sujet, et j'étais complètement démuni. C'est-à-dire, si c'était sur un sujet assez simple, on peut facilement lire un bouquin ou deux ou quelques articles pour avoir une connaissance qui permet de répondre à ce genre de problème-là. Sauf que là, on parle d'astrophysique, on parle d'astronomie, qui sont des thèmes qui demandent au moins 8 ans pour être dûment maîtrisés. Et donc là, en fait, bah moi, ce qu'il faut, c'est que j'encaisse le tunnel, que je note ce qu'il m'a dit point par point. Et derrière, on va avoir d'autres gens qui connaissent mieux ou qui connaissent aussi bien le sujet pour leur poser la question. Donc du coup, ça prend du temps parce que il faut encaisser le tunnel, il faut prendre des notes, il faut noter là où on sait pas, et ensuite contacter des gens qui veulent bien prendre le temps de nous aider en fait à démêler le vrai du faux, les conneries des choses justes. Par exemple, j'ai contacté une géologue française qui bosse au CNRS, qui est spécialiste des petits corps glacés du système solaire, donc du coup des comètes. Donc elle m'a aidé, quoi. Je lui ai envoyé mon article et donc on a eu un débat sur pourquoi une comète a une queue, quoi. Parce qu'on dit bien l'expression de la queue de la comète, et puis quand on voit passer une comète dans le ciel, on voit cette petite trace derrière. Mais en fait, pourquoi elle a une queue ? Et en fait, c'était un débat qui était important à un moment du papier pour préciser quelque chose qu'avançait à Villob, ou en tout cas dire que c'était faux. Et voilà, et donc en fait, elle m'a aidé. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle m'a dit on sait pas des fois. Et en fait, on a des théories, il y a des théories qui sont plus logiques que d'autres, mais dans la plupart des cas, on ne sait pas, on ne peut pas dire de manière péremptoire que tel objet correspond à telle catégorie. Celui qui parle plus fort, c'est Villob. Aujourd'hui, souvent, celui qui parle plus fort, c'est celui qui a raison dans le monde dans lequel on vit. Voilà. Donc du coup, bah, merci aux scientifiques qui aident les journalistes à ne pas dire des conneries aussi.
Et au niveau de l'écriture, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'on a peur à chaque phrase d'utiliser un mot scientifique à la place d'un autre et de se tromper, en fait, finalement ?
Bah ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, je m'assure toujours... J'ai pas traité beaucoup, beaucoup de sujets scientifiques comme ça, où il y avait besoin vraiment de... Enfin, il y a une nomenclature précise, un vocabulaire et tout que je maîtrise pas. Mais quand ça arrive, je m'assure toujours, avant d'écrire, d'avoir quelqu'un qui va le relire après. Ou au moins une ou deux personnes. Comme ça, en fait, je peux me lâcher un petit peu, quoi, et je suis pas trop paralysé en l'écrivant, sinon on perd beaucoup de temps. Donc là, je savais que Aurélie Guilbert-Lepoutre, la scientifique en question, le relirait derrière. Donc, et je lui ai dit, n'hésitez pas. Enfin, moi, l'intérêt principal de la relecture, c'est pour pas raconter des conneries. Donc justement, allez-y, quoi, ne m'épargnez pas. Et elle l'a fait, donc du coup, bah, c'était cool et j'étais un peu tranquille, quoi.
C'est un article qui est assez long sur un sujet, si on le prend juste comme ça, qui peut paraître alors soit chiant, soit complètement farfelu. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent pour les convaincre d'aller au bout ?
Alors, je trouve ça ni chiant ni farfelu parce que ça concerne quand même une des plus grosses questions du fait d'être sur Terre. Est-ce qu'on est seul, quoi ? Enfin, et donc du coup, moi, je trouve justement que c'est moi un des trucs les plus fascinants que j'ai eu à traiter, un des sujets les plus fascinants que j'ai eu à traiter. Et au-delà de ça, derrière cette recherche de vie extraterrestre ou de technologie extraterrestre, il y a aussi un truc un peu trépidant, c'est-à-dire genre comment un prof à Harvard aussi capé, genre vraiment, il y a aucun doute, c'est un monstre, enfin un monstre positif, c'est-à-dire c'est un titan de la science, quoi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pourquoi ? Et donc moi, je trouve ça assez fascinant. Et donc du coup, bah, pour donner envie au lecteur, bah, j'espère que ma petite tirade vient de donner envie de lire l'article. Au-delà de ça, ce qui est assez cool, c'est et sur ce sur quoi j'ai essayé d'insister, c'était que j'ai vu chez Loeb une sorte de trumpisme ou de muskisme un petit peu, qui est un peu propre à l'époque. C'est-à-dire que c'est un peu le troisième volet de l'article, qui est un peu plus difficile à montrer, parce que j'ai pas passé non plus trois semaines avec lui. Mais en gros, c'est quelqu'un de l'élite. Alors, comme on peut voir Musk et Trump comme ça, par exemple. Il y en a plein d'autres, comme Raoult aussi, un petit peu. C'est quelqu'un qui fait partie de l'élite et qui, à un moment, décide de rompre avec l'élite en disant « Je connais très bien cette élite-là, elle est corrompue. Suivez-moi, en fait. » Parce qu'il y a quand même cette présupposition chez beaucoup de gens dans le monde que les élites sont corrompues. Et d'ailleurs, peut-être à juste titre, parce que quand même, dans la société, plein de signaux nous montrent que c'est possible. Mais je pense que le monde est quand même plus complexe que ça. Et donc, du coup, avec cette présupposition-là, quand quelqu'un de l'élite décide de rompre et de dire « Ils sont tous corrompus, suivez-moi, je vais faire les choses différemment, je vais vous montrer les choses, vous les expliquer telles que c'est, et je vais en plus être l'homme providentiel qui va faire advenir, dans le cas de Trump, par exemple, rendre sa grandeur à l'Amérique, dans le cas de Musk, créer les voitures électriques ou vous nous emmener sur Mars. »
Envoyer des voitures électriques sur Mars.
Des voitures électriques sur Mars. Bah, dans le cas de Loeb, c'est bah, en fait, je romps avec les élites pour moi aller bah, en fait, vous faire découvrir la science déjà. Vous emmenez dans un espèce de super trip scientifique, ça va être génial, je vais tout vous expliquer. Et en plus, on va peut-être découvrir tous ensemble sur Medium et sur YouTube et dans des podcasts bah, de la vie extraterrestre. Et bah, en fait, là, on a un peu. Moi, je trouve qu'on a quelque chose d'assez hyper actuel là-dedans, quoi.
Ça a été quoi, finalement, le moment de bascule dans la vie d'Avril Loeb?
C'était en 2017, on a observé, quand je dis on, c'est évidemment pas moi, hein, c'est les scientifiques, mais ils travaillent pour nous, donc on peut dire on, c'est ça qui est génial. On a observé un objet, quand on dit un objet, c'est très très loin dans le ciel, en fait, mais on appelle ça objet parce qu'on c'est assez neutre comme mot, donc ça permet de pas trop présupposer de ce que c'est. Qu'on a appelé Oumuamua. Ça peut se traduire comme le messager dans une des langues hawaïennes. Et cet objet-là a eu un comportement un peu étrange. Et quand on dit comportement, encore une fois, c'est un mot assez neutre. Enfin, c'est un peu le langage en astronomie que j'ai un peu compris, du coup, en travaillant sur ce sujet. Et donc, du coup, ce comportement-là fait se poser beaucoup de questions aux scientifiques. Il y a un débat qui se lance, un débat ou alors une recherche de vérité, ou voilà, qui se lance parmi les astronomes, de se dire, mais pourquoi il s'est comporté comme ça? Par exemple, en passant devant le Soleil, il a accéléré. Et donc du coup, ben, là, pourquoi il a accéléré? Donc nous, avec notre esprit pas scientifique, on va se dire, ben, y a un moteur, du coup il a appuyé sur l'accélération, il est venu. Évidemment que c'est évidemment pas ça, il y a une réaction chimique qui se crée au moment où le truc passe devant le Soleil, et c'est pour ça que ça accélère. Ben, en fait, Ivy Loeb, lui, il est resté un peu en retrait de ce débat-là pendant un moment, et fin 2018, après peut-être 6 mois, 1 an, après l'observation d'Oumuamua, il publie un article en disant que ça pourrait potentiellement être un mécanisme technologique extraterrestre. Et c'est là, en fait, qu'il décide de participer au truc. Et le problème, c'est que quand... si c'est moi, là, dans un podcast ou sur YouTube, qui vais dire « Moi, c'est potentiellement un voile extraterrestre, je vais faire 19 vues », ça va pas être pris. Mais quand c'est l'ancien directeur du département d'astronomie d'Harvard, bah, ça a une portée incroyable, en fait. Et il a offert un mégaphone à cette théorie-là, et il s'est offert un mégaphone aussi à lui-même en disant ça. Qui fait qu'en fait on n'en est jamais revenu, quoi. Et c'est devenu une superstar du jour au lendemain. Il est jamais revenu de ça. Et il banque absolument sur ce truc-là. En faisant des interviews tout le temps. Il y a une équipe de Netflix qui le suit depuis un an et demi, qui va faire un documentaire sur lui. Voilà, enfin sa vie a changé le jour où il a pensé ce truc-là, quoi. Enfin, c'est assez fou.
Merci Anthony Mansuit de nous avoir fait voyager aussi loin. Merci à vous de nous écouter et de nous lire. J'espère en tout cas que cet épisode vous a donné très envie d'aller à la page 56 du numéro 225 de Society, en vente en ce moment chez tous les marchands de journaux jusqu'au 13 mars, et en numérique sur l'appli Sopress ou sur abonnement.sopress.net. Salut et à dans 15 jours.